Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette séance. Cette année, on va parler de la rayonisation de l'univers. Donc, dans cette première séance, on va parler des contextes, de la base, et puis peu à peu, dans les autres séances, on va rentrer dans le détail et mieux expliquer ce qu'est la rayonisation. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle rayonisation? À quelle époque cela se passe? Vous voyez ici un diagramme qu'on a déjà vu dans le passé, qui représente la succession des événements dans l'univers avec le temps qui s'écoule du haut en bas. Alors, ce que vous commencez par avoir en haut, évidemment, c'est le Big Bang, le début de l'univers. L'univers est très chaud, donc il est ionisé. Il y a des protons, électrons qui diffusent les photons, donc on a quelque chose d'assez opaque. Opaque jusqu'à une époque qui est 380 000 ans après le Big Bang. À cette époque, due à l'expansion de l'univers, la température s'est refroidie et est tombée à 3000 degrés. Et à 3000 degrés, le proton électron se recombine en atomes d'hydrogène. Donc on a ce qu'on appelle un âge sombre. Un âge sombre fondé, l'univers est rempli d'hydrogène atomique, qu'on appelle H1, la première phase de H. Vous voyez qu'ici, on aura H2, c'est l'hydrogène ionisé, donc proton, électron. Et donc ici, on a l'atome neutre, atomique plutôt, évidemment non ionisé. Et on l'appelle sombre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière, les premières étoiles ne sont pas encore formées. Qu'est-ce qui s'est formé à l'époque? Dans la période où les photons et les baryons, les matières ordinaires, se diffusaient et faisaient un ballet d'ondes acoustiques, en fait, pendant ce temps, la matière noire, qui s'est découplée des photons, évidemment, elle n'interagit pas avec les photons, elle s'est déjà effondrée par sa propre gravité pour former des halos noirs, donc des galaxies noires. Et dans cette époque-là, les baryons, donc la matière ordinaire, protons, etc., vont tomber dans ces halos de matière noire. On ne les voit pas, mais ce sont des puits de potentiel qui vont recueillir tous les baryons qui vont tomber. Et donc, on va former des premières étoiles dans les premières galaxies. Donc, quand on dit premières étoiles, c'est des groupes d'étoiles qui sont dans les puits de potentiel des halos noirs, donc dans les galaxies. Et puis, les premières étoiles, donc ça arrive à 500 millions d'années à peu près, 400 ou 500 millions après le début. Et on l'a symbolisé par une petite bulle jaune. Pourquoi? Parce que les premières étoiles, les étoiles massives, auront un rayonnement UV suffisant pour ioniser les atomes autour. Et donc, on a une bulle ionisée. Alors évidemment, peut-être que ce n'est pas suffisant quand il n'y en a qu'une, parce que l'univers est très dense, il va se recombiner automatiquement, et finalement, si la galaxie ne rayonne plus, elle va disparaître, et puis ils vont s'en former d'autres. Et peu à peu, il va y avoir un effet de boule de neige, parce que d'abord, dans l'expansion, l'univers est de moins en moins dense ici, et il est plus facile d'ioniser un milieu ténu, on va voir, parce qu'il y a moins de recombinaisons, et puis il y a de plus en plus de galaxies, donc vous voyez que les bulles d'une galaxie sur l'autre, vont se réunir et on a une percolation et on a une fusion de toutes ces bulles. Et à la fin, on pense qu'à peu près un milliard d'années après le Big Bang, l'univers est complètement rayonisé. Donc, voilà pourquoi on dit rayonisation, c'est qu'il était ionisé, il redevient neutre et il se rayonise. D'où l'explication du ray. Donc ionisé, neutre, ionisé à nouveau. Alors évidemment, il est ionisé aujourd'hui entre dans le milieu intergalactique, on a du gaz ionisé. Par contre, évidemment, dans les filaments plus denses ou dans les galaxies, il est neutre, il peut former des nuages moléculaires, reformer des étoiles, etc. C'est lorsqu'il est dense qu'il redevient neutre. Mais dans le milieu diffus intergalactique, il est rayonisé, donc on a ici le système solaire, aujourd'hui 13,8 milliards d'années. Alors quels sont les indices que l'on a que ça se passe bien ainsi? Eh bien, pas grand-chose. Pour l'instant, on a des simulations numériques. On le verra dans le séminaire tout à l'heure. Des simulations numériques qui montrent un peu la succession des événements. On a quand même quelques indices. On observe des quasars à z égale 6, 8. Alors, cette ligne-là, c'est z égale 6. Le redshift 6 qui nous donne une époque. On a des quasars ici, dans cette période-là, donc la période où il y a encore pas mal d'atomes neutres, donc de milieux neutres à l'intérieur entre les galaxies. Et donc, ce qu'on voit dans les absorbants des quasars, à cette période-là, ce redshift-là, on voit un trou, une absorption complète, parce que l'hydrogène atomique absorbe le rayonnement continu des quasars. On va le voir. Donc, on a des indices ici. On a aussi l'indice du ciel qui a été cartographié par les satellites qui observent le fond cosmologique micro-ondes, qui sont WMAP, Planck, qui donne un peu. Alors, on a vu qu'ici, dès qu'on avait des ions, on diffusait les photons. Mais ici, évidemment, les photons vont en ligne droite, et puis tout d'un coup, ils voient encore démyonisé, donc il va être rediffusé. Donc on a une petite déformation des fluctuations là-haut et qu'on peut connaître le taux de fluctuation, le taux de diffusion, et on peut avoir des renseignements avec le ciel de Planck, par exemple, on va y retourner. Et donc toute cette recherche ici de caractériser cette époque de réionisation, c'est tout simplement pour connaître ce qui s'est passé dans l'univers, les premières étoiles, quand est-ce qu'elles se sont formées, les premières galaxies, quand est-ce qu'elles se sont formées, toute cette période-là qu'on ne connaît pas bien. On connaît beaucoup plus celle-ci parce qu'on observe directement mieux les galaxies. Mais... Et donc, c'est un petit peu la question. On voudrait savoir comment on passe de cette dernière surface de diffusion qui a été, c'est le ciel de Planck ici. Donc, vous voyez toutes les petites fluctuations qui sont des contrastes de densité très, très faibles. On a un contraste delta rho sur rho qui est de l'ordre de 10-5. Les fluctuations en température et en densité sont de 10-5. C'est très, très homogène. Donc très faible, et ces fluctuations vont donner aujourd'hui, sous cet univers très contrasté, qu'on observe la densité moyenne entre les galaxies, c'est peut-être 10-29 grammes par centimètre cube, alors que vous avez des planètes à 1 gramme par centimètre cube. On voit qu'il y a une contraste de densité entre galaxies et intergalactiques, et on aimerait savoir comment ça s'est produit, surtout que l'expansion contrecarre la gravité, donc l'expansion empêche plutôt la condensation. Une autre façon de le voir, c'est de représenter jusqu'où va-t-on avec les télescopes. Ici, on a le télescope spatial Hubble, qui a fait de grands progrès dans ce domaine. Et ce qu'on a représenté ici, c'est l'horizon. Alors, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que l'horizon ? C'est une sphère. Tout observateur dans l'univers est à l'intérieur d'une sphère qui représente son univers observable. Pourquoi observable ? Eh bien, simplement parce que... Toutes les photons qui nous arrivent des galaxies lointaines nous arrivent après quelques milliards d'années. Donc si on regarde très loin ces galaxies-là, eh bien, on les voit lorsqu'elles étaient très très jeunes et il y a plusieurs milliards d'années de cela. Donc on est obligé de remonter le temps. Et lorsqu'on remonte jusqu'à un rayon en distance lumière de 13,8 milliards d'années, eh bien, on arrive au Big Bang ici, on a l'âge sombre, justement, tout ce qu'on vient de déterminer, âge sombre, premières étoiles. Alors, le Hubble Space Telescope a fait des champs profonds. Il a été lancé en 1990, donc presque 30 ans aujourd'hui. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Au début, on avait des champs profonds qui pouvaient regarder jusqu'à cette époque-là, et ensuite des champs ultra profonds. Et maintenant, on a des galaxies jusqu'à Z égale 11, c'est-à-dire ici, dans cette zone-là. Donc, on arrive à détecter toutes ces galaxies, vous voyez, un petit peu. Jusqu'à quelle profondeur de notre horizon on remonte. Alors, pour cette réionisation, on peut déjà se poser une question. Est-ce qu'on a assez d'énergie pour réioniser tout l'univers ? Visiblement, oui, puisqu'on est tout réionisé aujourd'hui, mais à quoi c'est dû ? Alors, par exemple, on peut penser aux étoiles et aux quasars. Les quasars sont des objets, des trous noirs qui sont au centre de chaque galaxie, et qui accrètent de la matière et qui sont beaucoup plus lumineux que les étoiles et les galaxies. Donc, on pourrait penser aux deux. En fait, ils sont beaucoup plus puissants, mais très rares. Et surtout, à grand redshift, ils sont très rares. Donc, on pense que c'est plutôt les étoiles qui vont rayonner. Alors, quelle est l'énergie qu'on récupère par fusion d'un atome d'hydrogène qui devient hélium, comme dans les réactions nucléaires qu'il y a au sein du Soleil, par exemple ? Eh bien, on sait que le défaut de masse, lorsqu'on revient dans l'hélium, on gagne 0,7% de la masse MC2, de l'énergie de masse MC2, qu'il y a, par exemple, dans un proton. Un proton qui a une énergie de masse 1 gigaélectronvolt, eh bien, on va avoir 0,7%, c'est-à-dire 7 MeV, un million d'électronvolts, par proton. Okay. Pour les trous noirs, c'est beaucoup plus efficace. Si on a du gaz qui tourne autour d'un trou noir, on peut montrer qu'on peut gagner beaucoup plus, en moyenne 10%, ça peut aller jusqu'à 20%, de l'énergie de MC2. Donc là, on aurait pour chaque proton 100 MeV d'énergie. Alors, ce qu'il faut pour ioniser un atome d'hydrogène, c'est le potentiel d'ionisation, c'est-à-dire qu'il part du niveau fondamental et on forme le proton et l'électron. Et ça, c'est bien connu, c'est 13,6 électronvolts seulement. Donc vous voyez, là, il y a un million, là, un facteur 1 million. Donc il suffit qu'on ait quelques millionièmes de la matière ordinaire baryon qui est transformée en étoile pour ioniser tout l'univers. Donc ça paraît très très facile, en fait c'est pas aussi simple que ça, parce que justement, ça c'est pour si jamais l'univers, le gaz ne se recombinait pas, en fait il va se recombiner, c'est-à-dire que lorsque le proton et l'électron se rencontrent, il va y avoir une collision et il va pouvoir cascader et reformer un atome, Et surtout, comme ça dépend de la collision, le processus va être proportionnel à la densité au carré, la densité d'électrons, qui est égale à la densité de protons, donc NE au carré. Et ce carré de la densité va être bien plus important dans les nuages. Donc si le milieu n'est pas homogène, mais qu'il y a des nuages, des galaxies, etc., et fatalement, il y aura des nuages, puisqu'il faut former des étoiles, donc il faut concentrer la matière quelque part pour former ces étoiles. Donc à ce moment-là, on va recombiner, et peut-être que tous les photons qui ionisent vont se recombiner et être perdus. Alors est-ce que c'est possible ? Oui, en fait, puisque quand on regarde les niveaux de l'atome d'hydrogène, donc on a le niveau fondamental, N égale 1, puis N égale 2, on appelle tous les la recombinaison qui descend sur le niveau fondamental, on appelle la série de Lyman, les premiers physiciens atomiques qui ont découvert cela. Ils ont appelé tous les photons qui redescendent au deuxième, c'est le ray de Balmer. Balmer, Paschen, Brackett, Foon, etc., c'est les premiers physiciens atomiques. Et ce qui va nous intéresser en astrophysique, c'est surtout Lyman alpha, H alpha. Les deuxièmes, là, ce sera plus énergique, ce sera Lyman bêta, et ainsi de suite, gamma, delta. Vous voyez qu'on peut ioniser en faisant passer dans le continuum, ici, on n'a plus d'atomes. Et puis, lorsque l'atome se recombine, eh bien, il va cascader en ayant des photons qui sont plus petits en énergie que l'énergie qu'il faut pour ioniser. Donc, finalement, on aura perdu, le photon d'ionisation sera perdu. Et donc, tous les photons de recombinaison ne peuvent pas ioniser l'univers. Il y en a pas mal qui seront perdus, et c'est ça qu'il faut calculer. Donc, ce qu'on essaie de calculer dans les simulations numériques, on pense que cette époque de réionisation, hein, qu'on appelle époque of reionization OR, pour faire plus simple, elle va être entre Z égale 20-30, le redshift, et puis Z égale 6. Et on va en avoir quelques indices. Alors voilà un petit peu les indices que l'on a pour tracer la réionisation. Ici, c'est le schéma temporel qu'on a déjà présenté sous une autre forme dans la première diapo. Donc ici, on a la dernière surface de diffusion, ce qu'on voit avec le ciel de Planck. L'âge sombre, donc là, l'hydrogène neutre, atomique, pas de galaxies. On pense que les galaxies vont se former à partir de là, former des bulles. Alors tout ce qui est en bleu, c'est les bulles ionisées qu'il y a autour de chaque galaxie ou étoile en formation. Et puis ici, on voit qu'on a un quasar, donc c'est ce fameux quasar qui, par absorption, alors si on a un quasar ici, vous voyez qu'on aura le continuum du quasar, l'arrêt Lyman-alpha du quasar, et puis tout ce qui est le continuum qui est devant, plus énergique, donc qui va pouvoir ioniser tout ce qui est devant envers l'observateur, il va être complètement à zéro, puisqu'il va rester encore des atomes neutres qui absorbent ce rayonnement. Si c'était tout ionisé, on retrouverait le continuum du quasar, mais là, on ne le voit pas, et ce qu'on appelle, c'est le fossé de Gunn-Peterson, parce que les Gunn-Peterson étaient les deux physiciens qui avaient trouvé cet effet. Donc on a cet indice-là, on a l'indice aussi de la diffusion des photons du corps noir, de cosmologie, qui normalement allait en ligne droite, puis on va être un petit peu diffusé là, donc on va le calculer avec le satellite Planck ici. Et puis, le but, c'est d'avoir aussi l'hydrogène, l'arrêt de l'hydrogène, lorsqu'il est encore neutre, et ça, c'est l'arrêt des fondamentales. On va en parler pas mal dans cette séance et dans les autres, l'étude de l'arrêt à 21 cm d'hydrogène, mais très décalé vers le rouge, puisque au lieu de 21 cm, ça va être 2 mètres, ça va être un Z égale 10, 2 mètres ou plus. Et ça, on ne l'a toujours pas détecté, mais depuis, il y a plusieurs radiotélescopes qui sont construits en ce moment, le Square Kilometer Array, qui va être opérationnel bientôt, et depuis un certain nombre d'années déjà, un précurseur, ou un Pathfinder ou un précurseur de SCA, LOFAR, qui fonctionne déjà et qui a trouvé une limite supérieure, mais qui n'a pas détecté encore le signal. Alors, le premier indice dont j'ai parlé, c'est cette fameuse fossé, l'absorption jusqu'à zéro du continuum des quasars. Vous voyez que déjà, Fan et al. En 2006 avaient trouvé un grand nombre de quasars. Ici, le redshift, c'est 5,7 jusqu'à 6,4. Et on voit que même à Z égale 6 et 5, on absorbe complètement. Donc, il y a encore beaucoup d'atomes neutres entre les galaxies, un milieu continu d'atomes neutres. Alors, il suffit qu'il y en ait un petit peu. Même si c'est neutre à 10%, ça suffit pour absorber complètement. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être commencé la réionisation, mais qu'on a encore pas mal de neutres. Et puis, on en voit beaucoup, hein, puisque là, c'est le redshift de Rayleigh-Mann alpha qui est décalé, toujours en fonction de Z. Mais évidemment, on s'est aperçu, en regardant beaucoup de ces quasars, que il ne s'était pas tout à fait linéaire. On pouvait trouver quelque chose qui était plus rayonisé à z égale 7 qu'à z égale 5 dans certaines directions, parce que la rayonisation ne se passe pas partout à la même vitesse. Il y a des régions qui sont plus denses que d'autres, et donc ça se forme en paquet. Donc voici un peu comment on peut s'imaginer que va se produire cette rayonisation. Donc on a en jaune le gaz atomique hydrogène neutre, mettons à z égale 30, et on a des petites galaxies. Alors ces galaxies vont grossir par fusion d'autres galaxies, donc on sait qu'au début on forme les petites structures qui ont ce qu'on appelle une température de Verrier, c'est-à-dire un puits de potentiel gravitationnel qui est assez petit et qui équivaut en énergie cinétique à une température de 10 puissance 4. Donc ce 10 puissance 4 est typique parce que c'est justement la rayonisation de l'atome d'hydrogène. Et puis les grosses structures en rouge vont être beaucoup plus puissantes et beaucoup plus capables d'ioniser. Et c'est celles-ci qui vont finalement dominer. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la recombinaison est, comme je le disais, proportionnelle au carré de la densité, dans l'expansion, toutes les structures sont toujours un certain facteur en dessus de la densité moyenne de l'univers. Comme l'univers était très dense autrefois, les structures ici sont très denses et la recombinaison est très rapide. Alors qu'avec l'expansion, lorsqu'on est tombé à z égale 9, le milieu est beaucoup, beaucoup plus diffus et il est beaucoup plus facile de ioniser puisque N2 est tombé très rapidement. Donc c'est un petit peu une boule de neige. Non seulement c'est plus facile de rayoniser, mais en plus il y a plus de galaxies. Donc la rayonisation va aller très vite et on va rejoindre et fusionner toutes les régions ionisées et percoler et tout l'univers va être ionisé. Alors on va se pencher sur à quelle vitesse une région ionisée se développe autour, par exemple, d'une étoile ou d'une galaxie. Alors, je prends une étoile parce qu'on le connaît très bien, ce qui se passe dans la Voie lactée. On a des régions ionisées autour d'étoiles, comme par exemple la nébuleuse d'Orion, qui est une région H2. H2, on veut dire H2 ionisé, pas H2 la molécule. Il y a toujours une confusion ici possible. Donc ici, on a une sphère ionisée autour d'une étoile. Et puis, vous voyez, le milieu neutre à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On pense qu'il y a d'abord très rapidement une onde d'ionisation qui se produit, avec un libre parcours moyen qui est proportionnel à la probabilité qu'un atome absorbe un photon. Et ce libre parcours moyen est très très petit. Je le mets en heure-lumière, c'est encore mieux. Il suffit d'une heure ici, lumière, pour avoir cette épaisseur-là. La taille typique d'une région H2 autour d'une étoile OB comme dans Orion, c'est plutôt parsec, 3 années-lumière, etc. Donc vous voyez que ce petit, c'est même pas à l'échelle, c'est extrêmement fin, alors qu'ici on a 3 années-lumière, on a une heure-lumière dans le libre parcours moyen. Donc ce qu'on appelle cette sphère de Schrödinger, c'est un état d'équilibre stationnaire entre le nombre d'ionisation, le nombre de photons ionisants, là, ce N gamma de photons ionisants qui est donné par l'étoile, et puis le nombre de recombinaisons qui se produit dans la sphère. Alors au départ, il n'y a pas d'équilibre, donc ça se propage très vite, et puis après, ça va stopper à ce rayon-là, puisque à chaque fois qu'on a un photon qui ionise, eh bien, vous voyez ici, c'est le volume multiplié par le taux au carré, on a le nombre de recombinaisons égale le nombre d'ionisations, donc on a une équilibre stationnaire. Ça se recombine et on perd les photons de réionisation en cascade. Et puis au bout d'un moment, ça va se passer très vite, dans quelques années. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, là, la densité du milieu était la même de chaque côté, mais la température, comme c'est du gaz ionisé, maintenant, il est à 10 000 degrés, alors que le gaz ici était peut-être à 100 degrés, quelque chose comme ça. Donc, on a 100 fois plus de température. Donc, la pression est beaucoup plus grosse à l'intérieur de cette sphère de Schrödinger. Donc, vous allez avoir une onde de choc, une pression qui va essayer d'équilibrer les pressions en dehors et en dedans de la sphère. Et donc, on aura une deuxième étape où il va y avoir expansion de la bulle, mais toujours avec un état stationnaire de sphère de Schrödinger. Alors évidemment, cette sphère était idéalisée. Ce que vous voyez ici dans la nature, c'est par exemple la nébuleuse La Rosette, une nébuleuse ionisée, c'est un petit peu rose parce que c'est H-alpha qui est dans le rouge. Et puis, on a appelé le taux de recombinaison, c'était le taux où on cascade en perdant le photon rayonisant. Évidemment, si on rayonise, on redonne exactement la même énergie, on ne compte pas, on ne repère pas son photon. Donc ici, c'est une recombinaison. Alors ici, c'est pour donner un petit peu des tailles. Dans une étoile OB dans la galaxie, vous voyez le nombre d'atomes en moyenne dans le milieu interstellaire, et puis la taille, qui est à peu près 1 parsec, 3 années-lumière, la taille du rayon, et puis le temps au bout duquel on obtient cette sphère de Strömbrunn, cet équilibre quasi-stationnaire, les amas d'étoiles, la Voie lactée, plus grand, hein, on a tout d'un coup, ça prend plus de temps, et pour la réionisation, ça va être beaucoup plus gros. Pourquoi ? Parce que le milieu intergalactique est beaucoup plus ténu. Vous voyez, au lieu de ça, on a 4^-4. Donc on va pouvoir rayoniser beaucoup plus loin. On a aussi beaucoup plus de photons, puisque ça va être une galaxie qui va donner un grand ensemble d'étoiles et un rayon qui sera 400 kiloparsecs ou 1 mégaparsec, c'est-à-dire quelque chose qui va contenir plusieurs galaxies, finalement. Donc on va avoir d'énormes sphères de Strömbrunn et le rayon d'équilibre, c'est de l'ordre de 1 million d'années. Et puis, il n'y a pas que l'hydrogène qui se ionise, il y a aussi l'hélium. Alors, on sait que dans la nucléosynthèse primordiale, on forme 10% d'hélium, c'est-à-dire en masse, ça fait 25%. Et l'ionisation de l'hélium, la première ionisation, puisqu'il y a deux protons à ioniser ici, c'est il faut plus d'énergie que pour l'hydrogène, donc 24,6 ou 13,6. Le deuxième, qui fait passer de H+ à H2+, c'est encore plus grand. Donc, que va-t-il se passer? Si vous avez une étoile assez chaude pour avoir cette énergie-là dans les photons, vous pourrez prendre tous vos photons qui vont avoir rayonisé HE en HE+, et puis après, on n'aura plus assez de ces photons-là, mais on en aura d'autres qui ne peuvent ioniser que l'hydrogène, et donc on aura H+ à l'extérieur. Donc, vous avez une succession, ça va s'échelonner, entre une sphère d'HE+ et une sphère d'H+. Si vous avez une étoile encore plus chaude, donc il y a des photons plus énergiques qui peuvent aller jusqu'à la deuxième ionisation, vous allez avoir HE++, puis H+, puis H, etc. Donc vous allez avoir des rayons concentriques, enfin concentriques ou pas, hein, selon l'homogénéité du milieu. Et pour l'univers, c'est un petit peu la même chose. On va d'abord rayoniser l'hydrogène, et on a vu que ça s'arrêtait jusqu'à Z égale 6. Et puis ensuite, parce que c'est plus facile lorsque on a un milieu plus ténu et l'univers est rentré en expansion, il est beaucoup plus facile à rayoniser. Donc ici, on va rayoniser à Z égale 3. Quand on fait les calculs, on s'aperçoit que c'est à peu près à ce redshift-là. C'est plus facile à observer, c'est plus proche. Et ici, on a par exemple une observation qui a été faite. Alors ça, c'est l'arrêt Lyman alpha de l'hélium. On a la même dénomination. Hein, c'est l'arrêt qui tombe au premier niveau fondamental. Et on a une observation devant un quasar, on a ce creux, le fossé de Gunn-Peterson. L'observation, c'est l'arrêt en noir. La simulation en gris, on voit qu'on a absorbé complètement ici. Alors là, c'est à 304 angstrom, ce n'est pas à 1200 angstrom. Et on voit qu'on a détecté la réionisation, la première réionisation de l'hélium à Z égale 3. Et puis, il y a d'autres, il n'y a pas que l'hélium. Une fois que les premières étoiles se sont formées, on a des éléments lourds qui vont se former, comme l'oxygène, l'azote, le soufre, etc. Ici, on voit qu'on va avoir des rayons qui s'échelonnent, et ça peut expliquer les belles couleurs que l'on a dans les nébuleuses planétaires, qui sont un peu la même chose. Nébuleuse planétaire, c'est une étoile un peu comme le Soleil, qui en fin de vie va exploser son enveloppe. On aura une naine blanche au centre, et on a du gaz ionisé qui est sorti. Alors, il y a plusieurs sphères. En vert, vous avez l'arrêt de O3, qui correspond à cette longueur d'onde, donc vous voyez en vert. H-alpha, c'est orange-rouge, donc vous voyez l'arrêt en rouge, etc. Ici, en HE+, bleu. Donc on a toute cette succession. Ici, c'est la nébuleuse des hélices. Vous avez du bleu, du jaune. Alors, il y a aussi l'oxygène. En première, il y a plusieurs ionisations de l'oxygène. Le premier niveau, curieusement, c'est très proche de l'énergie qu'il faut pour H. Donc on peut avoir une complication avec l'échange de charge entre les deux. OH+ et O+H, mais on peut aussi calculer un peu tout ce que, lorsqu'on a 6 électrons, 5 électrons, 4, 3, etc., vous voyez le niveau d'électron-vol qu'il faut pour ioniser les diverses étapes, hein, O0, O+, O2+, O3+, et toutes ces divers rayons expliquent toutes les couleurs que l'on voit dans ces régions ionisées, qui ont de plus en plus d'énergie ou moins de moins d'énergie. Avec le soufre aussi, on a ce genre de choses. Donc, les différentes phases, on les a un petit peu mentionnées tout à l'heure. On a d'abord une première phase très rapide où on fabrique la sphère de Strömbrunn et on arrive à l'état stationnaire où le nombre de recombinaisons égale le nombre d'ionisations. Et puis ensuite, il y a la pression qui pousse et on peut avoir des coquilles qui se forment et on peut chasser un peu la matière ici pour avoir ces coquilles. Donc ça, on l'observe dans les étoiles, dans les régions H2 autour des étoiles dans la Voie lactée. Et pour la réionisation, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va avoir les mêmes choses, mais on va avoir une sphère de Strömgren beaucoup plus grande. Et par exemple, pour un quasar, la sphère de Strömgren va rentrer en expansion très très rapidement. Pourquoi ? Parce que le quasar est très puissant, beaucoup plus de rayonnement. Il va pouvoir avoir une sphère de jusqu'à 5 mégaparsecs, donc un très grand volume. Et on a essayé de calculer un petit peu le taux à laquelle rentrer en expansion cette sphère d'ionisation, et c'est quelque chose qui va presque à la vitesse de la lumière, pas tout à fait bien entendu, mais presque. Et donc quand on a un phénomène comme cela et qu'on essaie de le mesurer avec des traceurs, des messagers qui vont à la vitesse presque de la lumière aussi, on a une compétition entre les deux et on a des phénomènes d'illusion qui font croire qu'il y a des régions qui viennent vers nous à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. On l'a déjà vu ce problème-là, lorsqu'on avait des jets radio qui étaient éjectés par un trou noir, et le plasma qui sort par ces jets est presque à la vitesse de la lumière aussi. Et donc, lorsqu'il vient vers vous, qu'on a plusieurs petits noyaux dans le jet, le noyau qui est plus proche de vous, eh bien, on a l'impression qu'il va plus vite que la vitesse de la lumière, parce que le messager a moins de chemin à parcourir que le petit noyau qui est un peu plus loin. Donc, finalement, on a l'impression qu'il va plus vite, mais c'est une illusion. Et là, on pense qu'on va avoir un peu la même chose. Alors évidemment, l'ionisation va se propager de façon tout à fait isotrope, donc sphérique, mais imaginez que vous ayez une source d'arrière-plan, et comme on va voir que c'est la taille, c'est du mégaparsec, il va y avoir beaucoup de sources, même des sources à l'intérieur, et voyez que si la source essaie de nous envoyer un photon, lorsque la source arrive en A, le quasar, sa sphère est arrivée jusqu'à ce rayon-là. Et puis, lorsqu'il arrive en B, le quasar il aura eu le temps de rentrer en expansion pendant ce temps. Et comme les deux mouvements vont à presque la vitesse de la lumière, le quasar sera à ce niveau d'expansion lorsqu'il arrivera en B. Donc, vous voyez que la forme que va avoir, d'après l'observateur, cette expansion, ce n'est pas la forme réelle qui est sphérique, mais cette forme un peu déformée, due au fait que le messager il prend moins de temps à nous faire parvenir son photon lorsqu'il est ici. Donc c'est le phénomène un peu superluminique que l'on a. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir peut-être avoir, si on a un quasar dans cette région de réionisation, on peut avoir des absorbants plus ou moins jusqu'à zéro, l'effet de Gunn-Peterson, ou bien plus ou moins des forêts Lyman-alpha. Et en tout cas, ça nous donnera des renseignements sur le milieu, est-il ionisé, neutre, à quelle vitesse ionise le quasar, etc. Donc ça, ça a été simulé par Yu et al. Donc la distance entre O et C, c'est-à-dire le rayon de la bulle, c'était 5 mégaparsecs, et sur le ciel, 7 minutes d'arc. Donc c'est quand même quelque chose qui est très grand, et on a plusieurs galaxies et plusieurs grumeaux qui sont à l'intérieur, donc c'est possible que l'on puisse observer dans toutes ces raies. Alors ici, vous avez un creux qu'on va appeler une prairie, parce qu'on appelle en général toutes les raies, lorsque le continuum n'est pas à zéro, la forêt Lyman-alpha, puisqu'il y a des tas de rayons Lyman-alpha qui absorbent. Ici, on aura une prairie. Et si on peut regarder d'un coin à l'autre, on pourrait connaître quelque chose sur le quasar et sur l'état d'organisation de l'univers. Donc, c'est ça le problème. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a fait un modèle sphérique où tout est symétrique, etc., et il n'y a pas de grumeaux. Mais en fait, le milieu n'est pas homogène. On peut le caractériser par le facteur C. Alors, C, c'est quoi? C'est la valeur moyenne du carré de la densité d'hydrogène sur le carré de la valeur moyenne de la densité. Donc, si NH est homogène, C égale 1. Mais s'il n'est pas homogène, évidemment, vous pouvez avoir des varilleurs 10, 20, 30, 40, si le milieu est très condensé en petits nuages, par exemple, en petites galaxies, en petits nuages. Donc, s'il est très contrasté, évidemment, le NH au carré sera bien plus grand que la moyenne au carré. Donc, on va pouvoir, avec des simulations ici, avoir beaucoup d'informations. Ici, c'est une simulation de Yu et al. Qui montre que le rayon atteint par la sphère de Strömgren en fonction de ce facteur de condensation, le C, alors vous voyez que C peut être 10, 30, 50, en fonction de l'âge du quasar, le temps que met cette sphère de Strömgren à se bâtir, c'est de l'ordre de 10 millions d'années. Et curieusement, c'est aussi le cycle du quasar. Lorsqu'un quasar, c'est quoi ? C'est un trou noir qui accrète de la matière. Et la matière tombe et puis est absorbée selon les 10 accrétions. Et on pense, on l'a observé, qu'il y a des phases d'accrétion comme ça qui ne durent que 40 millions d'années. Donc 4, 10, 800, 7 ans. Et peut-être que le quasar n'aura même pas eu le temps d'atteindre sa sphère de Strömgren quand le combustible qui lui donne son énergie aura disparu. Donc peut-être qu'il y a une compétition entre les deux. Mais en tout cas, selon la quantité d'hydrogène neutre que vous avez un rayon plus ou moins grand. Et ici, selon la condensation, vous voyez que si c'est 10, on va beaucoup plus loin que si on a beaucoup de nuages qui recombinent et qui empêchent la réionisation. Donc tout ceci a été simulé, pas encore observé. Enfin, on peut quand même faire une comparaison entre les quasars qui sont connus à Z égale 6, 7, donc dans cette période d'ionisation, et avec les modèles en fonction de la variable C, là, cette condensation. Et on voit que les quasars qu'on connaît, ils correspondent à C égale 35. Donc c'est quelque chose qui est très condensé déjà. Ici, c'est plusieurs modèles en fonction de l'âge des périodes du quasar, donc la forme que peut avoir le rayon de Strömgren, qui normalement est sphérique, mais qui a une certaine forme ici. Et qui pourrait nous dire, selon cette forme, si on l'observe, qui pourrait nous dire quel est le degré de d'ionisation de l'environnement du quasar. Bien, alors, il y a aussi un aspect que l'on peut voir ici, c'est que le bord de la sphère de Strömgren, on appelait sphère de Strömgren, mais on voit que le milieu est beaucoup plus anisotrope et irrégulier que ce qu'on peut penser. Et donc, les régions H2 que vous voyez ici sont très, très irrégulières. On peut, par exemple, dans certaines lignes de visée, ne plus avoir assez de densité ionisée et finalement, les photons peuvent s'échapper. Alors, c'est ça qu'on aimerait savoir, quelle est la probabilité d'échappement des photons pour savoir combien de photons ils vont pouvoir ioniser dans le milieu intergalactique, par exemple. Donc ça, c'est une fonction particulière, la fraction de photons qui s'échappent, de photons continuum qui s'échappent pour ioniser, que l'on ne connaît pas très bien. Mais on sait que soit on a ionisation partout, on a une sphère de Strömgren qui est délimitée par l'ionisation, ou alors c'est la densité, il n'y a plus assez de densité à ioniser, donc le photon s'échappe. Alors si les photons s'échappent, ça va faire un peu une boule de neige, puisque on va pouvoir ioniser non seulement tout ce qu'il y avait dans la galaxie et autour, mais aussi toutes les autres bulles. Si on sort de sa bulle, on peut à ce moment-là se propager dans tout l'intergalactique et puis percoler un peu. Et donc c'est ça qui va se produire. Et probablement ensuite, on va observer jusqu'à Z égale 3 ou 4, quelque chose qui est complètement réionisé. Alors vous voyez, complètement réionisé, c'est ce quasar. Donc il y a le continuum avec sa Riemann alpha. Et là, vous ne voyez jamais le continuum aller à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une région intergalactique qui est complètement neutre. Il y a seulement des petits nuages qui absorbent leur Riemann alpha, mais là, on retrouve le continuum du quasar. Donc, il n'y a pas de fossé. Alors, c'est exactement ça qui est représenté ici. On a tout un tas de neutres ici, donc un fossé, et puis ensuite une forêt. Et donc, ce nom de prairie a été employé, comparément à la forêt, c'est tout à fait imagé et ça se comprend très bien. Donc, on a autour du quasar quelque chose qui est encore neutre, la prairie. Ici, une forêt Riemann alpha, complètement ionisée. Et puis, au-delà, vous avez la deuxième série, la deuxième raie de la série, Riemann bêta, qui a une énergie plus grande. Et donc, on va pouvoir avoir une prairie Riemann alpha, une forêt, et ensuite gamma, delta, etc. Donc, c'est un peu ça que l'on observe. Alors, pour l'échappement, on aimerait savoir comment, et ça, on ne le sait pas encore, quel est le degré d'échappement. Alors, dans les simulations numériques, évidemment, quand on fait des simulations cosmologiques à l'échelle du mégaparsec, puisque le rayon de Strömgren, c'est des mégaparsecs, on n'a pas la résolution suffisante dans les galaxies pour savoir ce qui s'échappe, les photons qui s'échappent d'une galaxie. On ne sait pas s'il y a un degré de nuages ou un degré de condensation. On ne sait pas s'il y a des tubes qui permettent d'échapper. Alors, par exemple, il pourrait y avoir des tubes s'il y a un trou noir au centre qui fait un jet et qui pousse toute la matière, ou bien une flambée de formation d'étoiles qui fait un flot aussi qui pousse. Bon, ça, on ne le sait pas. En général, dans les simulations, on les met à la main, de façon de recette. Ou alors, si simplement, on a une limite qui est limitée par la densité, donc ça s'échappe partout. Ça, c'est encore quelque chose d'inconnu. C'est pour ça qu'on a essayé d'observer des objets plus proches pour savoir quels étaient leur taux, la fraction d'échappement. Alors, plus proches, c'est par exemple ces objets qu'on a appelés les petits pois verts. Alors, qui est-ce qui a appelé ces petits pois verts? En fait, c'est les astronomes amateurs qui regardaient le ciel dans le Galaxy Zoo. Vous savez qu'il y a eu le ciel qui a été cartographié par le Sloan Survey. Et il y a à peu près 1 million de galaxies. Donc, on a fait appel aux astronomes volontaires qui pouvaient classifier les galaxies, puisqu'un million, on était exclu que chaque astronome regarde 1 million de galaxies à l'œil. Et il est ressorti l'existence de ces petits pois verts. Vous voyez un petit peu, ça, c'est 4 observations de galaxies qui ressemblent vraiment à des petits pois verts, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de Lyman alpha ici, dans le continuum. Et on s'est aperçu qu'en effet, c'était des objets assez petits, d'où les rayonnements UV s'échappaient beaucoup. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un petit objet, la métallicité est plus faible. La métallicité croît avec la masse. Donc, métallicité faible, ça veut dire pas beaucoup de poussière, pas beaucoup d'éléments lourds. Donc, les rayons, les Lyman alpha ou continuum, ressortent plus. Et puis, ils avaient beaucoup de formations d'étoiles, donc beaucoup de Lyman alpha. Et on s'est aperçu qu'on pouvait quand même mesurer, non pas forcément le continuum qui sort, qui ionise, mais au moins le Lyman alpha. Et ce Lyman alpha, c'est une raie particulière, parce que c'est une raie résonante, qui est diffusée par des milliers d'atomes d'hydrogène. Et on sait que même si on est absorbé au centre de la raie, vous voyez, si c'est une raie d'une galaxie, d'un de ces petits pois verts, en fonction de la vitesse, vous avez le flux en fonction de la vitesse. Au centre, il y a tellement d'atomes d'hydrogène et peut-être d'autres métaux que ça ne peut pas sortir. Par contre, ça sort dans les ailes de raie. Et pourquoi y a-t-il des atomes à ces grandes vitesses? Eh bien, sans doute, c'est dû à le gaz éjecté par la formation d'étoiles ou peut-être par un petit trou noir, etc. Et à ce moment-là, les photons Lyman alpha sont diffusés des milliers de fois. Au centre, ils vont être absorbés, mais au bord, ils vont être un tout petit peu, par effet Doppler, décalés en vitesse, et finalement, ils vont sortir, parce qu'à grande vitesse, il y a beaucoup moins d'absorption. Donc finalement, on voit ces photons sortir, et c'est peut-être une façon que la fonction d'échappement pourrait être calculée comme ça. On pense que cette fonction d'échappement, elle est due à plusieurs choses. D'abord, le milieu est poreux, il n'est pas du tout homogène, donc pour la même masse, il y a beaucoup de petits morceaux. Et donc, on peut sortir par les trous, et même si dans les trous, il y a encore du milieu un petit peu diffus, eh bien, ce milieu diffus va diffuser les photons Lyman alpha et ça va sortir. Donc, voici pour la fonction d'échappement qui n'est toujours pas connue. Et les simulations numériques nous la prédisent entre 0 et 100%, ce qui n'est pas très informatif. Donc, il y a une question dont on se pose et qu'on n'a pas encore résolue, c'est quel est le rôle respectif des quasars ou des étoiles dans la réionisation? On a montré que les photons qui pourraient rayonner l'univers seraient dus à l'un ou à l'autre. On pense aujourd'hui que ce sont les étoiles qui dominent, parce que les quasars, ils ont beau être beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup moins nombreux, mais on n'en est pas exactement sûr. Et en tout cas, les quasars peuvent chauffer par les rayons X très durs, et qui sont assez peu absorbés, qui peuvent chauffer le gaz et catalyser, par exemple, la formation de H2 et d'étoiles. Alors, il y a quand même des phénomènes physiques qui sont très intéressants dans la réionisation. C'est qu'on pourrait avoir, dans cette époque, l'origine des champs magnétiques extragalactiques que l'on observe aujourd'hui, mais on ne sait pas exactement quelles sont les graines. On sait qu'il y a des effets dynamo qui vont amplifier le champ, mais la graine du départ, on ne sait pas. Et ça pourrait être dû justement à cette batterie de Biermann qui est représentée dans la slide suivante, ici. Vous avez, puisque c'est une réionisation, vous avez beaucoup de gradients de densité d'électronique. Vous avez aussi des gradients de température. Et on peut penser que ces électrons, dans ces gradients, ils vont bouger. Alors, par exemple, ils vont avoir des mouvements un petit peu désordonnés, mais on peut penser à un mouvement un petit peu qui forme une boucle. Et si vous faites une boucle de courant, vous avez un champ magnétique perpendiculaire à la boucle de courant qui est créé. Donc vous avez une graine, donc c'est ça la batterie Winman, une graine qui est formée dans la réalisation. Donc ça, on a fait des simulations, hein. Je pense qu'il y en a une ici, par exemple, à Z égale 11, où l'on voit la fraction d'atomes. Alors ici, c'est 1, mais ici, c'est très ionisé. Vous avez le champ magnétique qui a été formé dans la densité du gaz et la température, etc. Donc là, on a un moyen de former le champ magnétique intergalactique. Il y a aussi un autre phénomène physique intéressant, qui est que cette rayonisation va peut-être chauffer et ioniser les petits halos de matière noire dans lesquels sont tombés quelques baryons et qui sont un gros problème pour la théorie standard de matière noire qu'on a appelée CDM, Cold Dark Matter. Cette théorie, dans les simulations numériques, on sait qu'on forme beaucoup trop de petits satellites autour d'une galaxie comme la Voie lactée. On a, dans cette simulation-là, des milliers de petits satellites que l'on ne voit pas. Donc on est obligé de supposer complètement noir, c'est-à-dire formé que de matière noire. Ils n'ont pas formé d'étoiles. Pourquoi ? Eh bien, peut-être que, justement, au début, la réionisation nous a donné un moyen de stopper la formation d'étoiles dans ces petits halos, parce que, grâce au rayonnement UV, ils ont ionisé et chauffé et évaporé tout le gaz. Donc ça pourrait être une solution à ces problèmes-là. Ces petits halos, là où justement où il y a du gaz, ça pourrait être aussi les absorbants complètement saturés qu'on appelle damp Lyman alpha. Et enfin, il y a aussi un phénomène qui peut trouver sa solution, c'est l'existence des quasars, mais vraiment très massifs. On a vu qu'on avait des quasars à Z égale 6, 7, 8, on a même des quasars à Z égale 8. Et curieusement, on a pu montrer quelle était leur masse de trous noirs, parce qu'ils rayonnent beaucoup, ils rayonnent à la luminosité d'Eddington, la luminosité maximum, qui est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc on a pu voir que ces trous noirs étaient de quelques milliards de masses solaires. Et ça, c'était une surprise, car on pensait qu'au début de l'univers, commencent à se former des tout petits trous noirs qui, en fonction du temps, accrètent de la masse, et aujourd'hui, ils seraient de quelques milliards de masses solaires. Comment se fait-il qu'on ait des trous noirs tout de suite, dès le début, même à 500 millions d'années après le Big Bang, qui est déjà des milliards de masses solaires? Eh bien, peut-être que certains halos vont former des trous noirs directement et non pas des étoiles. C'est ce qui a été proposé. Alors, par exemple, lorsqu'on a seulement le rayonnement du fond cosmologique qui chauffe une petite galaxie, on va former de grosses étoiles. Alors, dans les premières galaxies, il n'y a pas beaucoup de métaux. Donc la température peut monter très vite parce que le métal est un refroidissant, la poussière est un refroidissant. Donc à ce moment-là, on forme des étoiles, la masse de Jeans c'est plus grande, et on forme des étoiles très grosses qu'on appelle population 3, qu'on n'a jamais observées parce qu'en fait, elles ne sont qu'au début de l'univers. Aujourd'hui, à Z égale 0, on observe la population 1, qui sont les étoiles jeunes, la population 2, mais population 3, on pense qu'elles existent au début de l'univers. Mais il n'y a toujours pas de trou noir. Alors par contre, si on empêche cette formation d'étoiles, par exemple par le rayonnement UV dû à une galaxie voisine qui rayonise complètement le gaz de sa compagne, à ce moment-là, on n'a plus d'étoiles, mais on a un trou noir directement. Donc quelque chose qui ferait un millier de masses solaires directement et qui pourrait ensuite croître pour atteindre le million et le milliard de masses solaires. Donc c'est cette proposition qui est une des solutions de l'existence de quasars et de trous noirs si massifs à Z égale 8. Alors ensuite, je voudrais savoir un petit peu, il faut que je me dépêche un petit peu, à quelle époque a-t-on pu, par nos traceurs, qui sont les traceurs du fond cosmologique, l'époque de la réionisation, en fait, on va voir, il y a eu des ratés sur cette observation. Les gens ont surestimé la probabilité qu'il y ait diffusion par de la particule chargée. Et dans les années 2003, il y avait, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y avait deux réionisations. Et en fait, c'était complètement faux, donc je vais passer très vite. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure ici une fluctuation sur la surface de Planck. Et puis, la fluctuation va être un peu déformée et absorbée par la diffusion qu'il y a sur la ligne de visée. Maintenant, savoir quand se trouvent ces électrons qui diffusent à nouveau les photons du corps noir, ça va être difficile. Mais on a quand même un indice ici, c'est que l'univers est en expansion. Donc si les électrons sont surtout, par exemple, la réionisation ce serait à z égale 18, vous voyez que vous allez avoir beaucoup plus d'électrons sur la ligne de visée que si vous avez une réionisation à 12 et que si vous avez une réionisation à 6. Tout ça est dû à l'expansion de l'univers. Donc on peut dater, avec la probabilité de trouver ces diffusions, on peut dater quand même où est la réionisation. Alors voici ce que donnait le résultat. WMAP, déjà dans les années 2002-2003, il avait trouvé une opacité, donc une probabilité de diffusion des photons du fond cosmologique par les électrons de la réionisation. Il était très élevé. Et donc pour cela, il fallait supposer la courbe en jaune. Là, vous voyez, ça c'est le taux de formation d'étoiles en fonction du temps, le redshift. Il fallait supposer cette courbe jaune et qui était beaucoup trop élevée. Beaucoup trop élevé. Aujourd'hui, on mesure des galaxies à z égale 6, 8, 10. C'est les points bleus. Et c'est plutôt la courbe rouge qui est observée. Donc, ce sont ces galaxies-là qui vont rayonniser l'univers. Donc, on va sans doute avoir une rayonisation qui correspond à la courbe rouge. Et en effet, on a vu que Planck avait commencé à mesurer cette fameuse opacité à une valeur très proche de WMAP, et puis finalement c'est tombé, et maintenant on est presque un facteur 2 en dessous. Donc on commence à être compatible avec ce qu'on observe en optique, donc le taux de formation d'étoiles en fonction de Z. Alors voici la récapitulation de cette fameuse opacité qui a commencé très haut et qui revient très bas. Ici c'est l'époque où les papiers ont été publiés, hein, 2013. Et puis tout d'un coup, on est passé de 0,09, et puis on est tombé très bas. Là, en 2018, on était à 0,055, et en 2019, donc Pagano et Tal, on remonte un tout petit peu. Donc finalement, ça veut dire qu'on converge quelque part, en fait, on ne va pas descendre trop bas, et on converge, et maintenant, ça commence à être compatible avec ce qu'on sait, par ailleurs, du nombre d'étoiles qui se forment dans l'univers. Donc on pense qu'on a atteint quelque chose. Alors pourquoi c'était faux ? Bien, c'était un problème de calibration des données du fond cosmologique, de Planck, etc. Alors, il y a aussi un diagnostic qui vous permet de savoir où était l'époque de la réionisation, c'est le diagnostic des émetteurs Lyman alpha. Donc, c'est des galaxies qui, par leur taux de formation d'étoiles, émettent du rayonnement Lyman alpha. Et en fonction, on les mesure directement avec le Hubble Space Telescope. Ici, on avait quelque chose qui commence à monter un tout petit peu parce qu'il y a moins de poussière dans les galaxies, donc on le voit un peu mieux, et puis tout d'un coup, ça tombe. Et le fait que ça tombe, ça veut dire que c'est absorbé par l'hydrogène neutre qu'il y a entre les galaxies. Donc ça veut bien nous dire qu'on rentre dans la période où l'hydrogène n'est pas encore rayonisé, et donc ça veut dire que c'est z égale 6. Donc cette tombée-là, ici, est due au fait qu'on a plein de... ici, on voit la chute ici. Donc, vous voyez, il y a quand même des barres d'erreur, hein, c'est encore pas très précis. Mais ça confirme le fait de l'indice qu'a donné Planck, qui était à peu près le Z moyen, c'est à peu près 8 de la réionisation. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais parler donc de l'arrêt à 21 cm, qui est finalement le test le meilleur que l'on peut avoir de la réionisation, puisque c'est justement la présence de l'atome d'hydrogène. Alors, comme on sait, cette raie à 21 cm, qui a été découverte dans les années 50, et dans l'espace aussi, c'est la raie où vraiment le niveau fondamental, et il s'agit d'un proton et un électron. Donc, vous avez le spin du proton, I, et le spin de l'électron, J. Et soit ils sont parallèles, soit ils ne le sont pas. Donc, F, la somme, c'est égal à 0 ou 1. Et lorsqu'un atome passe de cet état-là à cet état-là, elle émet un photon de 21 cm de longueur d'onde. Et à z égale 10, on va être décalé vers le rouge à 2 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on espère si on regarde dans ces basses fréquences radio de 2 mètres et plus de longueur d'onde? Qu'est-ce qu'on va essayer d'obtenir? Eh bien, on a un flux. Alors, on parle toujours en température de brillance. Il s'agit de la fonction de Planck qui, dans les basses fréquences, s'est approximée par l'approximation de Rayleigh-Jeans, donc c'est proportionnel à la température. Donc, au lieu de donner un flux avec toutes les quantités qui sont devant, qui sont fonction de beaucoup de constantes fondamentales, on parle en température, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, l'unité sera les degrés K. Donc, la température de brillance qu'on va observer, pour un nuage qui sera à une température cinétique, cette fois-ci, température vraie, c'est-à-dire une petite estimation du mouvement brownien des atomes entre eux, donc température cinétique. Ce nuage est plongé dans un fond qui est à la température du fond cosmologique, qu'on appelle le CMB, le Cosmic Background, Microwave Background, ici. Alors, si on regarde dans cette direction, par exemple, donc on va voir d'abord un signal qui est la température du corps noir, mais absorbée par l'épaisseur optique tôt, plus ou moins tôt, et puis l'émission du nuage, avec l'émission avec la température de spin. Ce n'est pas tout à fait la température cinétique si le gaz n'est pas thermalisé. La température de spin, qu'est-ce que c'est? C'est la température de population des niveaux. C'est-à-dire que plus le niveau 1 par rapport au niveau 0 est élevé, plus on dirait que la température de spin est élevée. C'est-à-dire qu'on a excité l'atome dans les degrés élevés. Donc, si on a, par collision entre atomes, thermalisé cet atome, on aura TS égale TK. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on va observer, en fait, non pas une ligne de visée, mais deux lignes de visée. On va regarder la différence avec le fond. Parce qu'en absolu, on ne peut pas mesurer des toutes petites grandeurs. On va juste mesurer des différences. Donc, c'est cette différence qu'on mesure. Et lorsqu'on est à un grand redshift, elle va être décalée vers le rouge, donc plus Z. Donc, finalement, comme taux est très faible, 1 moins N moins taux, c'est taux. Donc, c'est cette formule-là qu'on va détecter, le flux qu'on va détecter. Et vous voyez que si la température d'excitation, la température de spin de l'atome est égale à la température du fond, on ne va rien voir du tout. Donc le but, c'est est-ce que la température ici du gaz va être égale à la température du fond? Alors s'il y a un équilibre de radiation, oui, mais on espère que non. Et alors ce qu'on va voir, alors on peut le mettre, on va le développer en fonction de la quantité de la fraction de H1, hein, c'est la quantité, le taux est proportionnel à la quantité d'atomes que vous avez sur la ligne de visée. Donc c'est le critère de densité qui va apparaître, H1. Et puis aussi, comme on va regarder normalement, quand on a une raie de H1, on a dans une galaxie, on a une largeur en vitesse qui est due à la vitesse Doppler des atomes dans la galaxie. Par contre, ici, on va regarder sur des mégaparsecs. Et donc la largeur de la raie, ça va être plutôt la vitesse qui est due à l'expansion de l'univers. Donc on va faire apparaître un delta V qui sera proportionnel à cette constante de Hubble. Et alors, quelle va être cette température? Eh bien, il faut savoir que finalement, la température du gaz va tomber en dessous de la température du fond. Alors, comment on peut le savoir? Ici, vous avez dans l'expansion, vous savez que le rayon de l'univers, R de T, c'est l'inverse de 1 plus Z. Z, c'est la variation de lambda, la longueur d'onde du photon. Donc ici, c'est le rapport entre les longueurs d'onde du photon, si vous voulez, et le photon, lui, sa longueur d'onde s'expande comme le rayon de l'univers. L'espace se dilate et le photon se dilate. C'est ça exactement le décalage vers le rouge. Donc le décalage vers le rouge ici, c'est exactement la taille R de T. Donc ce que vous avez aussi pour la température du fond, c'est KT, c'est H nu, c'est-à-dire l'énergie du photon, et H nu, c'est lambda, donc c'est aussi un plus Z. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a le fond cosmologique à 3 degrés ou 2,73, et puis à Z égale 1000, on avait 3000 degrés, on avait la recombinaison, etc. Donc ça, déjà, on sait que le photon, lui, particule relativiste, sa température décroît comme un plus Z. Par contre, le gaz, lui, n'est pas relativiste, et la physique sera différente. On peut penser, et c'est très vérifié, que l'expansion est adiabatique. Elle ne va pas être. On s'expanse, c'est une dilatation de l'espace, hein, ce n'est pas une expansion due à un autre phénomène physique. Donc on va appliquer la loi des gaz parfaits. La première, c'est PV qui est égal à NKT, donc N, mettons une mole de gaz, donc vous avez quelque chose qui est proportionnel à T. Et puis, si c'est adiabatique, par exemple, PV gamma, avec gamma le facteur de rapport des capacités calorifiques, et gamma pour un gaz monoatomique, c'est 5 tiers. Donc on fait un petit calcul en éliminant P de ces deux équations, et on trouve que la température du gaz varie comme R, le volume ici, R-2, et donc en 1 plus Z au carré. Donc il descend plus vite que le photon. Donc au départ, le photon et le gaz sont à la même température. Ensuite, le gaz devient plus froid et on a l'espoir de peut-être voir l'absorption de l'atome d'hydrogène sur le fond cosmologique. Possible. Alors, il faudrait pour ça que la température de spin soit égale à la température cinétique, ce qui est vrai s'il y a cette collision. Au départ, c'est vrai, puisque l'univers est assez dense pour qu'il y ait équilibre. Ensuite, ce ne sera plus vrai, et à nouveau, le TS va devenir égal à la température du fond, et on ne verra rien. Alors, après, il va y avoir une autre étape où il va y avoir formation d'étoiles et formation de photons Lyman alpha, dus aux étoiles. Alors, les photons Lyman alpha qui vont être absorbés par les atomes d'hydrogène, alors ici, j'ai représenté le niveau fondamental et l'arrêt est ici à 21 cm. Et puis, l'arrêt Lyman alpha, ça va propulser, si un atome absorbe Lyman alpha, ça va propulser assez haut, au niveau n égale 2. Et pour retomber, il y a des règles de sélection. Il y a des règles de sélection, delta J égale plus ou moins 1, ou 0, mais pas de 0 à 0, etc. Donc, tous les pointillés, c'est impossible. Interdit, et tout ce qui est en plein, c'est permis. Donc, finalement, on voit qu'il y a beaucoup plus de permis qui retombent sur le niveau du haut. Donc finalement, Lyman alpha va pomper les atomes à un niveau plus élevé. Donc va essayer de thermaliser les atomes. Donc si on est dans un état expansé de l'univers, avec un milieu plus diffus, le rayonnement des étoiles va nous aider à thermaliser. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ici, hein, en fonction du temps? Vous avez une température qui décroît en fonction du temps qui va jusqu'ici. La température du fond, c'est le pointillé. La température du gaz ici, donc au début, on peut avoir une absorption. Et puis après, il y a les étoiles qui se mettent à briller. Vous avez une température qui est plus chaude que le fond. Donc d'abord, absorption et ensuite émission. Donc c'est ça, en fait, qu'on espère voir. Alors, dans l'âge sombre, on est assez dense pour avoir une absorption parce que les collisions thermalisent le gaz à une température inférieure au fond. Et puis ensuite, ça revient à zéro. Et puis ensuite, il y a encore une absorption, mais cette fois-ci due aux étoiles, et puis une émission. Donc tout ça va être un petit peu plus détaillé, hein, dans les cours suivants. Mais en gros, c'est la base. On espère trouver, en effet, du gaz qui va avoir ce genre de structure. Alors, il y a à la fois des simulations complètement qui suivent la physique avec du transfert radiatif, c'est très complexe, avec de rayonnement continu, de rayonnement Lyman alpha, on va en entendre parler avec Benoît Semelin tout à l'heure, ou alors des modèles semi-analytiques qui vont plus vite et qui permettent peut-être de faire varier les paramètres. Alors, vous voyez, je ne détaille pas tout ça, mais c'est des... Les paramètres varient, toute la courbe que je vous ai montrée, on ne sait pas exactement où elle est, mais il y a beaucoup de variations. On va pouvoir faire une tomographie, c'est-à-dire à chaque redshift, avoir une vitesse différente et une fréquence différente du H1. Et aussi, regarder est-ce qu'il n'y a pas un effet de vitesse. On sait qu'au départ, la matière noire et les baryons avaient un comportement différent. Il y a une vitesse et on va peut-être voir aussi l'effet de cette vitesse sur le H1. Et peut-être aussi voir ce qu'on appelle forêt, mais cette fois-ci en 21 cm, hein, en analogie avec la forêt de Lyman alpha. Vous pourrez avoir, alors évidemment c'est beaucoup plus faible parce que la raie 21 cm est une raie interdite, il y a très peu de probabilité de présence par rapport à Lyman alpha, mais peut-être si on avait un grand quasar très puissant dans la raie de l'inondation, on pourrait voir cette absorption. Donc ici, je n'ai pas le temps de le dire, mais peut-être que Benoît va en parler. Les spectres qui sont attendus, peut-être qu'on pourrait le détecter au début de la réionisation. Donc je finis en disant que la réionisation, c'est une époque vraiment privilégiée pour tester cette histoire de l'univers, la formation des premières étoiles, la formation des premières galaxies. On va avoir actuellement, avec le télescope Hubble, on est limité pour la détection de galaxies à z égale 8. On sature complètement, mais bientôt, on va lancer un autre télescope spatial qui sera le James Webb. Donc, on va pouvoir, en optique, en infrarouge, détecter beaucoup plus de galaxies dans cette période de réionisation. Et puis, avec SKA, le Square Kilometer Array, on va pouvoir, puisqu'il y a 1 km carré de surface, détecter à 21 cm ces signaux que l'on a déjà prédits dans l'ordinateur et avoir la température de ce fond en fonction de l'âge de l'univers, et puis peut-être des forêts de 21 cm, et puis les sphères de Strömgren autour des quasars brillants. OK, je m'arrête là. Merci.